visible.
Visible.
C'est parti.
Bonjour chers auditeurices, pour cette nouvelle émission je suis ravi de recevoir Sile Saf Molpoa. Il est auteur et journaliste indépendant. Ses sujets de prédilection sont les identités au sens large LGBTQIA+, ainsi que l'écologie. C'est grâce à lui que nous pouvons lire aujourd'hui un manifeste gay agrémenté de son texte entre biographie, recherche et réflexion autour de la pensée de Carl Whitman. Bonjour Si.
Bonjour.
Alors pour commencer cet entretien, est-ce que tu peux nous dire qui était en quelques mots Carl Whitman ?
Alors Carl Whitman, c'était un militant un peu multifacette. C'est un militant qui a commencé une trajectoire, qui est né juste après la Seconde Guerre mondiale, qui a grandi dans une famille affiliée au Parti communiste états-unien, de la moyenne classe, petite bourgeoisie, et qui a très tôt milité au sein des mouvements étudiants qui se mobilisaient notamment sur les questions antiracistes, contre la ségrégation, mais aussi progressivement contre la guerre au Vietnam. Et donc c'est quelqu'un qui a fait ses armes en fait militantes, d'abord en tant qu'étudiant et qui puis progressivement en déménageant à San Francisco, etc., s'est rapproché des milieux gays, des milieux de libération sexuelle même plutôt, et libération gay. Et puis de fil en aiguille, après avoir milité dans ces espaces-là, a déménagé à la campagne, etc. Et en fait a eu comme ça énormément de déplacements militants tout au cours de sa vie. Et c'est pour ça qu'il a une trajectoire assez... assez singulière et à mon sens intéressante, parce qu'elle retrace énormément de courants en fait politiques qui ont fonctionné ensemble et parfois même aussi qui ont fracturé. Ouais. Et il a une trajectoire qui est assez emblématique par rapport à d'autres aussi militantes et militants gays qui passent aussi par ces phases-là, de passer par différents courants pour progressivement arriver à un espace alors gay ou lesbien en fonction des trajectoires. Voilà, il est malheureusement mort du sida dans le début des années 80.
Oui, quand tu parles de toutes ces trajectoires, il s'est aussi marié avec une femme.
Ben, en fait, comme beaucoup d'autres militants qui traversent comme ça les années 30, 40, 50, 60, en fait, certains ont une vie d'hommes mariés ou de femmes mariées, puisque en fait, c'est aussi le cas de militantes lesbiennes. Et puis, avec l'essor en fait, des groupes de la contre-culture, culture, etc., s'affirme de plus en plus la possibilité de vivre en tant qu'eux, et puis c'est aussi une partie des revendications politiques de l'époque de come out, de sortir ouais. du placard. Et en fait, sa femme, la femme de Carl Whitman, est par ailleurs une camarade. À lui, c'est vraiment quelqu'un, Mimi Feingold, qui milite avec lui à l'université et qui va être elle-même aussi une grande militante antiraciste qui, elle, est encore en vie et vit actuellement à San Francisco. Et il me semble que voilà, le fait qu'il ait été marié informe aussi son intérêt et son attention à la question féministe, puisque sa femme a été aussi une militante féministe radicale.
J'adore ce mot. Il dit tellement. Et du coup, comment c'est quoi ta découverte de cet auteur ou de son texte ?
En fait, Whitman, si je me souviens bien, j'ai rencontré son manifeste gay avant d'entendre parler de sa vie, au moment où j'étais en train de faire des recherches autour de l'écriture du premier livre que j'ai écrit, qui s'appelait Écologie déviante, et je cherchais un peu des exemples de communautés qui s'était créé dans les espaces, notamment en Oregon, mais dans des espaces plus ruraux aux États-Unis. Et il y avait un ouvrage de Françoise Flamand, qui est une sociologue féministe lesbienne, qui a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle Women's Lands, Construction d'une utopie, si je cite bien le titre, dans lequel elle évoque plusieurs textes un peu fondamentaux. Il y a un texte d'une critique lesbienne qui avait écrit Lesbian Nation, Jill Johnston, où elle évoque la notion de séparatisme, et elle mettait en regard, si je me souviens bien, il faudrait que j'aille revoir quand même le texte de Françoise Flamand, le texte de Carl Whitman, un manifeste gay, et puis surtout sa démarche de créer un espace de vie dans l'Oregon. à côté de l'endroit en fait où s'étaient aussi construites des communautés rurales lesbiennes. Et donc c'est comme ça en fait que c'est d'abord via la question du séparatisme, via la question de il faut partir et quitter un territoire géographique pour en créer un autre en non-mixité, et la question de la ruralité et de l'écologie qui était impliquée, que j'ai rencontré, voilà, que j'ai été mise en contact avec le texte avant de me rendre compte de ce qu'il a, du rôle qu'il avait pu jouer, de son importance, etc.
Et c'était quoi ton travail du coup sur, je fais un petit pas de côté pour le moment sur Whitman, c'était quoi ton travail justement sur ces communautés, qu'est-ce que t'en ressors aujourd'hui ?
Mais à l'époque, en fait, au moment où j'ai commencé à écrire Écologie déviante, on assistait aussi à de plus en plus de publications autour des communautés féministes, communautés de femmes, notamment à travers l'ouvrage de Françoise Flamand, mais il y avait aussi dans la collection Sorcières des éditions Cambourakis, des textes de Starhawk, des textes écoféministes qui retraçaient, voilà, plus ou moins l'existence depuis les années 70-80 de communautés qui s'étaient auto-organisées dans des espaces ruraux pour essayer de réfléchir à d'autres modes de vie, se réapproprier des savoirs, etc. etc. Et m'intéressait la question au moment où je cherchais à réfléchir à quoi pourrait ressembler une écologie déviante, de me dire, bon bah voilà, il y a eu des communautés lesbiennes, des communautés de femmes qui se revendiquaient plus ou moins lesbiennes par ailleurs, mais est-ce qu'il y a eu des communautés gays ? Est-ce qu'il y a eu des communautés gays rurales, par exemple ? Et j'avais du mal, en fait, à trouver des traces. Et Whitman a été un peu l'un des premiers à faire exister, au début des années 70, quelque chose d'un embryon de vie collective à la campagne. Et puis, progressivement, en fait, je me suis rendu compte que dans l'Oregon, mais en fait, dans d'autres endroits, dans l'Iowa, etc., d'autres communautés avaient eu leur propre histoire et leur propre temporalité, puisque en général, à l'exception de quelques-unes, les communautés gays, j'ai l'impression, ont quand même duré moins longtemps que les communautés de femmes ou les communautés lesbiennes.
Et uniquement aux États-Unis, ou t'as vu d'autres communautés en France, ou est-ce qu'aujourd'hui ça pourrait s'organiser ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'entre le moment où j'ai commencé à écrire ce livre et maintenant, les choses ont quand même considérablement évolué, à mon sens. On a vu apparaître et se visibiliser énormément d'espaces en non-mixité, transpédéguines. Moi, entre-temps, entre le moment de l'écriture et maintenant, évidemment, j'ai entendu parler de bien plus d'initiatives collectives. Après, c'est vrai qu'au moment de l'écriture, j'arrivais pas à trouver dans l'histoire francophone, ou en tout cas dans l'histoire française, des exemples qui s'étaient construits autour de la question de l'identité. Et autour de la question d'un séparatisme identitaire, en tout cas dans les années 70-80, à ma connaissance, j'ai pas trouvé en France. Et je pense que c'est extrêmement lié au développement des États-Unis. C'est extrêmement lié aussi à la question des territoires colonisés, de la manière dont on s'autorise aussi à aller s'installer, créer des espaces, acheter des terres, occuper des terres. Et puis la question aussi du rapport à l'identité aux États-Unis n'est pas exactement le même qu'en France. Donc je pense que ça a quand même beaucoup joué sur le fait que cette archive-là, cette mémoire, elle n'était pas extrêmement visible de prime abord. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exemples auxquels je n'aurais pas nécessairement eu accès jusqu'à maintenant.
Alors du coup, on va revenir au texte. Comment s'est fait finalement ce travail autour du livre ?
Et en fait, j'avais ce texte un peu sous la main. En fait, il était tellement fort aussi dans sa vitalité, dans ce qu'il proposait politiquement. Il y avait quelque chose quand même qui était extrêmement vivifiant. Et donc, je m'étais dit qu'à un moment, je prendrais le temps de le traduire. Au départ, je voulais le faire un peu comme ça et puis le proposer éventuellement à Trou Noir ou à une sorte de magazine en ligne ou de revue en ligne. Et on en avait parlé d'ailleurs. Après, c'était un texte qui était quand même relativement long, qui, selon moi, faisait sens aussi accompagné d'un appareil de notes ou en tout cas d'une sorte de contexte. Et je trouvais que ça faisait d'autant plus sens que l'histoire de Whitman et de son auteur était tellement méconnu, que ce soit aux États-Unis ou en France, même aux États-Unis, il est complètement passé quand même à la trappe de l'histoire, en dépit du texte. Il n'y a jamais eu de biographie, même si là il y en a une qui est en préparation en ce moment, par une chercheuse américaine. Du coup, j'avais envie, progressivement, c'est un peu imposé la forme, de faire un ouvrage un peu plus complet, quoi. Mais j'avais pas non plus envie d'écrire la biographie de Carl Whitman. j'ai pas les ressources financières pour passer 3-4 ans à voilà, faire des recherches un peu partout, etc., et me déplacer aux États-Unis. Donc en fait, progressivement, comme j'étais en contact avec la maison des éditions du commun, qui était elle-même en train aussi de travailler avec les éditions Grillage sur une republication des Pédales et leurs amis entre les révolutions. Mmh.
Qui est très très bien.
Voilà, qui est aussi un autre texte un peu phare des années 70. Ça semblait presque un peu une évidence de mettre en écho ces deux textes pour faire exister aussi ce temps comme ça de cette décennie rouge voilà, de la fin des années 60, début des années 70, et des rouges et roses ou violettes quoi, mais et donc progressivement on en a parlé et on a décidé voilà de faire émerger cette traduction sous la forme d'un petit livre, et puis après il y a un autre petit texte qui s'est ajouté.
Je considère le manifeste gay comme une archive. Comment on fait pour traiter une archive au regard de notre époque en fait?
Alors déjà, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai pu entrer en contact avec les derniers proches encore en vie de Whitman, c'est-à-dire son compagnon, et puis à l'époque sa cousine qui est morte entre-temps, avant la fin de l'écriture, malheureusement. Mais en fait, ils m'ont mis vraiment, ont été d'une générosité rare, et m'ont envoyé numériser énormément d'archives personnelles qui étaient stockées dans la maison de son dernier compagnon. Donc en fait, pour traiter cette archive-là, l'archive même du manifeste, j'avais accès, alors une sorte de, ça arrivait comme ça par paquet, sans aucune, mais en fait j'adore travailler l'archive comme ça, c'est hyper excitant, je recevais des sortes d'extraits de journaux, de textes qu'il avait écrits quand il était étudiant, des photos, et puis progressivement, voilà, je bricolais, j'essayais de recomposer, moi je détestais l'histoire quand j'étais étudiant, je détestais l'histoire parce que ça me parlait pas. Parce que j'avais l'impression que ça parlait toujours de sujets où je ne me sentais pas concerné. Et je pense que j'avais pas du tout intégré la question qu'il fallait que je passe peut-être par le prisme de la dissidence sexuelle ou en tout cas de l'homosexualité pour en fait commencer. Et en fait, depuis que voilà, je me plonge dans les archives, je vois bien que cet endroit-là me permet en fait de me replonger dans la question historique et dans la matière même de l'histoire. Et du coup, voilà, j'ai pas une formation universitaire, j'ai pas une formation d'historien en fait. Donc je bricole, je lis de la théorie et puis progressivement évidemment au fur et à mesure d'interviews et puis la pratique de journaliste aide évidemment, y a quelque chose d'un contexte avec ses creux, avec ses manques qui commence à se tisser et à partir duquel j'avais aussi pour le coup envie d'accepter, de laisser les zones de flou, par moments aussi les... Pour moi, quand on raconte une histoire et qu'il y a encore des survivantes ou des survivants qui sont liés à la personne ou à l'archive, évidemment, il y a la question de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas, qui on respecte, est-ce qu'on donne quand même, un peu la manière d'un journaliste, tous les faits, ou est-ce qu'on respecte aussi les désirs, les récits de celles qu'on a interviewées. Et pour moi, c'était un vrai enjeu de me dire, qu'est-ce que je fais de cette archive? Est-ce que j'assume qu'il y a un endroit où elle est un peu biaisée? J'assume aussi de l'emmener vers un endroit politique et militant, parce que pour moi c'était important de la faire exister sur le plan politique aussi. Donc je sais pas comment on fait, je sais pas si j'ai une méthode, mais par contre pour moi c'est important de, comment dire, d'assumer que le geste fait l'archive et que l'archive que je propose, c'est un certain type de lecture de cette archive. Je l'emmène à un endroit qui est aussi le reflet de mes propres désirs, de mes propres interrogations, et que il y a beau y avoir par exemple des échos, des correspondances entre ce moment des années 70 aux États-Unis et on va dire des réflexions sur l'intersectionnalité, les coalitions au présent. En même temps, c'est compliqué de calquer parce que en fait, le rapport à l'identité n'est pas du tout le même. Le rapport à la crise politique, écologique, etc. est vraiment pas du tout le même. Pourquoi aller chercher en permanence dans les décennies ou les siècles qui ont précédé?
On n'a pas accès. Comme tu disais, enfant ou ado, t'aimais pas l'histoire parce que ça te parlait pas. Aujourd'hui, t'as un travail qui s'approche d'un travail d'historien parce que tu fais émerger des personnes qui sont aujourd'hui invisibles et même aux États-Unis, ce qui est étonnant d'ailleurs.
Ce qui dit aussi effectivement l'état des archives individuelles et collectives. En fait, c'est un équilibre délicat dans la manière de gérer en fait des archives personnelles. Par exemple, sur Whitman, y a une partie des fonds qui sont dans des universités américaines, mais en fait, il n'y a jamais eu, à ma connaissance, véritablement de travail de valorisation de ces archives. Elles ne sont pas accessibles en libre accès, donc il n'y a pas de récits qui se sont tissés autour de ça, il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas de livres. Donc il y a quelque chose aussi qui interroge beaucoup de c'est quoi le processus de traitement, de valorisation des archives quand c'est fait par des grosses institutions comme des grandes universités, etc. Parce qu'à la fois ça les préserve entre guillemets, mais quelle matière est accessible ensuite, sauf voilà, quand on n'est pas spécialiste ou quand on n'est pas universitaire. Et moi j'ai eu la chance d'avoir accès à ça via en fait des proches, et du coup ces archives c'était encore des objets intimes.
Est-ce que tu leur as demandé permission ou ils te donnaient toute permission d'utiliser les archives qu'ils t'envoyaient ?
Dans la mesure où, en fait, elle me les envoyait, moi, ce qui était important, mais c'est aussi ce que je fais en tant que journaliste, c'est que je fais relire.
D'accord.
J'ai fait relire le texte. Donc j'ai fait. Alors malheureusement, j'ai pas pu faire relire à la cousine de Karl puisqu'elle est décédée. Mais par contre, j'ai fait relire à Alan, donc son dernier compagnon, en essayant de lui retraduire en anglais mon texte en français. On dirait, est-ce que t'es d'accord avec ça ? T'es d'accord avec ça ? Bon. Sauf que Alan, en fait, est aussi à un certain âge maintenant. Et puis, je pense que c'était. En fait, c'est. On parle pas beaucoup du rapport. En fait, ça coûte aussi vachement pour les proches de prendre ce temps-là, de réactiver des souvenirs qui sont aussi liés à des choses enthousiasmantes, vivifiantes et des choses extrêmement douloureuses. Ouais. Donc, il y a un petit côté aussi un peu très voyeuriste hein, aussi, à des moments de vouloir absolument en savoir plus, etc. Et puis d'avoir l'impression de pousser aussi un petit peu celles qui sont encore là.
Oui, ça devait pas être évident pour son compagnon.
Donc
en fait,
c'était pas forcément évident. Donc je sentais que j'avais une sorte de que Alan acceptait le travail qui était le mien, mais je sais qu'en fait ça n'a pas été si facile à vivre pour lui.
Oui, j'imagine une vague de souvenirs plus ou moins heureux ou pas, quoi.
En plus, voilà, la disparition de la cousine de Karl. Ouais. Je pense que ça a été quand même un moment qui n'était pas évident, qui était à la fois très beau et en même temps, je pense, assez chargé pour
même
tout le
monde. Même pour toi, oui, j'imagine.
Bah oui, parce qu'on récupère quand même des choses. En fait, on ne récupère pas que du papier. En fait, on récupère des émotions, des lettres de deuil, des lettres d'amour. En fait, c'est aussi... C'est très dense ce qui se passe dans le travail, et en plus d'autant plus que parfois c'est assez solitaire. Moi, ça m'est arrivé de me faire des grosses chialades après une lecture de la dernière lettre d'Alan à Karl ou ce genre de choses. Enfin, c'est plus facile quand le temps est plus lointain. Là, je travaille en ce moment sur Edward Carpenter, sur une autre ouais. figure gay, mais plutôt de la fin du 19e, début 20e.
Tu avais déjà fait un livre
sur laquelle j'avais déjà fait un livre, ouais. Mais là, je fais la traduction de son autobiographie. D'accord. Et c'est vrai que la distance temporelle, ouais. historique, rend les choses plus... Alors évidemment, il y a toujours de l'affect, etc., mais c'est moins douloureux quand il y a des histoires de deuil.
Oui, il y a moins d'empathie s'il n'y a pas de survivants, j'imagine.
Enfin, voilà. Et puis, il y a aussi on se sent plus autorisé à écrire, à traiter les informations, à mettre en avant aussi les manques, ouais. Dessiner quelque chose aussi de la personne de moins agiographique ou valorisant, etc. Mmh. Ouais.
Et alors, je te le disais, moi je l'ai trouvé assez actuel comme manifeste. Qu'est-ce que t'en retiens, toi, par rapport à notre époque, en fait ?
C'est un peu comme je te disais tout à l'heure, je pense qu'en fait c'est plutôt l'énergie qui se dégage du manifeste, plus que les idées politiques que je trouve évidemment intéressantes, avec lesquelles il y a plein de choses qui rentrent en écho, mais moi ce que je trouve fascinant dans ce manifeste, c'est plutôt cette sorte de vitalité politique et intime qui est la sienne quand il écrit ce texte, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment où on sent qu'il y a un espoir. Il y a un espoir très fort, un espoir de pouvoir construire des mouvements qui s'articuleraient les uns aux autres, avec une conscience très forte de la question des oppressions, des dominations, que ce soit sur les questions homophobes, lesbophobes, racistes, etc. Et avec un désir aussi très fort de l'alliance et de la coalition. Et donc plutôt, tu vois, que d'imaginer effectivement qu'il y a déjà une pensée intersectionnelle, ou en tout cas de convergence des luttes, évidemment, elle est là, mais elle a plein de manques, enfin, elle a plein d'impensés, etc. Moi, ce que je trouve très fort, c'est qu'il y a cette notion d'espoir. Qu'il y a un moment où il y a un temps. Et je trouve qu'en ce moment, bah, comment on construit des espoirs politiques, collectifs, quand même, on pourrait le dire révolutionnaires, parce que, en fait, ce moment-là, pour lui et pour plein d'autres, quand même, c'est un moment où on croit quand même que quelque chose peut arriver. Et on croit qu'on peut aussi créer d'autres espaces, d'autres modes de vie, que ça peut se répandre. Enfin, il y a aussi. Et bah, des moments, on est un peu en quête de ça. Donc moi, je pense que c'est un peu ça que je vais chercher aussi chez lui. Même si, évidemment, c'est aussi très intéressant d'essayer de comprendre ce qui a merdé, ce qui a marché dans leur tentative, dans leur tentative d'alliance. Moi, j'aime beaucoup travailler sur les tensions, les coalitions, les fractures qui peuvent exister entre les différents mouvements et entre les différentes expériences militantes. Parce que je pense qu'évidemment, depuis mon propre endroit, la question de comment on articule les luttes, comment on les pense ensemble, où on ne les pense pas ensemble, mais on essaye de trouver des dénominateurs communs, c'est évidemment quelque chose qui est très... qui a un enjeu extrêmement important.
Surtout aujourd'hui, ouais, totalement aujourd'hui. Alors justement, tu parlais de convergence des luttes. Je trouve que c'est un peu ce que tu as fait au travers de ton livre « Écologie déviante ». Qu'est-ce qui t'a animé à l'écrire, ce livre ?
Alors j'étais bien plus jeune déjà, parce que ça commence à faire, parce que j'ai commencé en fait en 2016-2017, mes recherches autour de la question de l'articulation entre des perspectives écologistes, l'écologie politique et les luttes LGBTQI ou la question de la dissidence sexuelle. Et à l'époque, non, c'était en 2015 en fait que tout a un peu commencé. C'était, comme je le raconte parfois, autour du moment de la COP21 et autour de l'expérience, d'une première expérience militante qui a été la mienne, qui a été celle de commencer par militer dans des milieux écolos ou dans des milieux de justice climatique. Et voilà, en fait, peut-être ne pas avoir suffisamment pris la mesure du fait qu'il était important que je mette au centre aussi la question de ma sexualité. Que je puisse... la question de la sexualité, la question des luttes LGBTQI. Et je pense que très vite, ce qui a chopé aussi au sein de cette première expérience dans les milieux de justice climatique, ça a été de voir que les enjeux, de domination, les manières dont la parole circule, dont les actions s'organisent, dont on donne de la place à des voix plutôt qu'à d'autres, dont on pense aussi, on essaye de penser à travers la question de l'écologie, en fait, tout un mode de vie, une organisation sociale, de voir que ces enjeux-là étaient complètement désimpensés, alors que moi-même, j'avais besoin de pouvoir les penser dans un moment comme ça, a fait que très vite, il a fallu que j'embraye sur quelque chose qui m'était aussi... intime, parce qu'en fait les luttes écologistes, comme beaucoup d'autres luttes, quand on les vit sur le mode de l'activisme notamment, mais pas, enfin, y a pas que ça, c'est aussi très intense, et donc il y avait besoin aussi de me retrouver parmi des proches, des personnes avec qui j'avais des expériences
et toi-même,
en
du
commun
coup, aussi.
Et pouvoir assumer aussi à l'époque plus clairement là où je me situais, quels étaient mes désirs, aussi assumer une forme de sensibilité, de rapport à l'émotion, etc., qui était à l'époque, mais je pense que ça a énormément bougé quand même dans les espaces, des choses qui je trouve circulaient moins, qui étaient beaucoup moins conscientisées, etc. Donc ce livre, il est né de ce besoin d'aller chercher, de faire émerger d'autres histoires, une autre généalogie, aussi fragmentaire soit-elle. Et oui, ce besoin d'histoire et d'archives, il est né aussi de là.
D'accord. Et du coup, en quoi pour toi, il est nécessaire d'associer lutte LGBTQIA+, et lutte écolo ?
Oui, je pense qu'il y a une vraie nécessité de toute façon d'articuler la question écologique, c'est-à-dire la manière qu'on a d'habiter cette terre en partage, en commun, avec notre manière de faire société et de penser la multiplicité des existences, du rapport à la sexualité, aux gens, etc. Et de reconnaître aussi tous les mécanismes de domination qui se sont cristallisés et construits et exacerbés au sein du capitalisme actuel. Voilà. Donc de toute façon, pour moi, c'est même pas nécessaire, c'est indissociable.
Oui.
Preciado parle de régime pétro-sexo-racial.
C'est vrai.
Donc l'idée, c'est qu'on articule la question d'un certain type de développement industriel, des mutations du capitalisme avec la question de la sexualité, de la domination patriarcale et avec la question du colonialisme. Pour moi, de toute façon, maintenant, c'est un tout qu'il nous faut penser ensemble et l'écologie sans lutte LGBTQI, je ne vais pas dire que c'est du jardinage parce que j'adore le jardinage, même si j'en fais assez peu. Et à l'inverse, je trouve que penser les luttes LGBTQI sans les articuler à la question de l'écologie et de la critique du capitalisme me semble malheureusement trop restreint et en fait nous permettre des perspectives d'émancipation vraiment à très court terme.
Ouais, totalement, ouais. Alors, du coup, quand on regarde les actions à Sainte-Soline ou contre l'autoroute A69, les grandes manifestations contre les réformes des retraites, on a le sentiment qu'on est en face des pouvoirs qui ne regardent plus la rue. Quels sont les moyens et les actions à mettre en place pour avoir de l'impact ?
Mais ça, c'est toujours un peu la grande question. C'est la grande question. Moi, au cours de ces dernières années, j'ai pu participer à différentes temps de mobilisation un peu important où justement, comme je disais tout à l'heure, le fait de tisser des alliances ou des coalitions plus ou moins spontanées dans des moments un peu spécifiques, que ce soit sur des réformes, que ce soit autour des gilets jaunes, que ce soit là au sein de différents mouvements d'écologie, etc., pour ne pas les citer, et bien d'autres autour de ce qui se passe en ce moment. Moi, je pense que de toute façon, évidemment, la question de la répression, la question de la criminalisation des actions militantes et de la difficulté, en fait, de toute façon, non seulement à exister dans l'espace public au moment où on se mobilise, mais en fait à exister médiatiquement, à se faire entendre et ensuite à pouvoir créer un vrai rapport de force avec le politique, évidemment qu'elle est de plus en plus épineuse. Par contre, moi je pense qu'on... Enfin, c'est pour ça que je continue, c'est que je pense que en fait on pose des choses à certains endroits, on crée aussi des écosystèmes, des formes de camaraderie entre groupes, on apprend à se connaître en faisant, donc c'est très difficile de déterminer la teneur d'une action ou de quand bien même il y a eu même un retentissement médiatique, etc. Et je le vois d'autant plus par exemple que maintenant que je vis à Marseille, je vois bien la différence de traitement par exemple médiatique entre des mobilisations qui peuvent se jouer hors du centre parisien, ouais. Et des mobilisations plus locales, quoique il peut y avoir des impacts peut-être plus dans la politique locale, il y a quand même des jeux qui sont possibles de rapports de force, etc. Donc c'est très difficile en fait de répondre à cette question. Ouais. Moi je crois encore à l'idée de d'être dans une forme de culture, de ce terreau alternatif, quoi. De ce terreau alternatif, de rencontres aussi entre les groupes. Je crois de plus en plus au fait de se mobiliser localement sur des enjeux de territoire. Je pense que aussi, à partir du moment où les luttes s'ancrent sur des expériences vécues, en fait, à partir d'un même territoire, on voit bien qu'il y a énormément de problématiques qui touchent à tout ce que je viens de décrire tout à l'heure, tu vois, qui touchent à la fois à des questions de classe, à des questions écologistes, à des questions de droit du travail, à des questions de pollution, à des questions liées à la xénophobie, au racisme. Moi, je trouve qu'à partir d'un travail de territoire, on arrive en fait à articuler énormément de perspectives quand même. Quand bien même elles ne sont pas toujours aux mêmes endroits. Donc après, voilà, quel est l'impact dans une montée globale des fascismes ? Ça, c'est et de la pensée fascisante, même dans le spectre politique, qui est le nôtre. C'est difficile à dire. Moi, je pense aussi parfois en me disant, en fait, je m'organise maintenant pour les années à venir, quoi.
Pour lutter demain, quoi.
Pour lutter, aussi, c'est-à-dire pour avoir déjà des écosystèmes dans lesquels il va être possible de s'investir. On crée aussi des espaces Et des formes d'espace susceptibles de s'adapter dans les années à venir, parce qu'on voit bien que évidemment la violence politique s'abat de multiples manières, et voilà, si on regarde un peu du côté d'autres pays en ce moment, comme les États-Unis, etc., c'est effectivement assez effrayant. Oui.
Oui, parce que je te posais cette question, j'ai beaucoup fait de manifestations contre les retraites à Paris, évidemment dans le Pink Bloc, que je trouvais génial, en fait, de voir des transpédéguines au sein des gros acteurs du syndicalisme. Qu'est-ce que toi, tu penses justement de ces incursions des Pink Blocs au sein des grandes manifestations, des grands mouvements ?
Ah bah pour moi c'était vraiment essentiel. Je veux dire, si j'ai participé aussi à des Pink Blocs il y a quelques années, c'était parce que pour moi il y a quelque chose d'un espace à investir, et que la question des espaces qui seraient idéologiquement purs, ou la question de l'homophobie, etc., par exemple, ne se rejouerait pas, elle est ou du racisme, etc., en fait elle est vraiment épineuse. En fait, moi, pour moi, c'était plus important d'investir parfois des espaces militants où on peut voir se reproduire des remarques, des attitudes, etc., de les investir, d'essayer de peser, de réaffirmer, de montrer à nouveau qu'en fait on est toutes concernées aussi, et qu'on n'est pas que Gwyn, PD, etc., que parfois même en tant que Gwyn, PD, trans, etc., on peut être exploité de certaines manières, etc., mais que les réformes sociales, elles nous touchent toutes de manière plus ou moins différenciée. Et puis la question des alliances, à nouveau, en fait, je pense que c'est fondamental qu'on crée des ponts, qu'on crée des espaces d'échange, que ce soit en Assemblée Générale ou ailleurs. Donc pour moi, c'est vraiment important. Après, plus là les années passent, plus je suis aussi confortable avec ces endroits d'inconfort. Parce que, oui, il y avait des moments en manif, pendant des AG, dans des réunions, etc., où je vivais assez mal de voir le fait que nos groupes soient plus ou moins mis sur la touche. En tout cas, c'était une certaine époque où que c'était assez désagréable d'avoir à réentendre des chants avec leur florilège habituel. Je pense que je suis de plus en plus désireux d'approfondir ces endroits, d'approfondir la possibilité des rencontres. Et s'il doit y avoir vraiment fracture à un moment, il y aura vraiment fracture, mais au moins avant d'avoir essayé, quoi. Mais aussi parce que je me sens plus fort qu'avant, et que je suis peut-être moins vulnérable que je n'étais avant.
En même temps, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça hyper intéressant. On parlait de convergence des luttes tout à l'heure. Ça fonctionne. C'est qu'à un moment, on a le droit aussi d'être visible au sein même de ces grands mouvements sociaux, de ces grandes manifs.
Je pense qu'il y a la question de la visibilité, mais il y a aussi la question d'échanger et d'essayer de faire comprendre aussi les questions d'homophobie un peu systémique, quoi, les questions dont se reproduisent les mécanismes de domination. Et je pense quand même qu'à certains endroits, moi je le vois aussi dans les mouvements écologistes, pour y être retourné depuis quelques années, mais depuis les territoires marseillais, je vois bien quand même qu'il y a une attention qui commence clairement à s'affirmer sur les questions queer, décoloniales, féministes, etc. Et donc,
aussi ou pas ? Parce que c'est un gros sujet en ce moment, globalement. Tout le monde a un avis plutôt négatif sur les personnes trans. C'est vraiment la dernière cible des gens. Et j'ai l'impression que, bon, évidemment, de l'extrême droite à la droite, évidemment, on s'attend pas à ce que ces personnes soient défendues. Et à gauche, tout l'arc gauche, c'est pareil. Il y a quand même des gens qui ne défendent absolument pas les personnes trans, notamment au sein des mouvements écolos, sous leur principe d'être plus proche de la nature. Les personnes trans ne pourraient pas exister. Je résume un peu, schématise totalement, mais bon, c'est ma critique de leur opinion.
Oui, là, il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu au sein des mouvements de la gauche et des mouvements alliés de décristalliser les formes d'essentialisme et de naturalisation, quand bien même parfois ça se forme même pas aussi clairement que ça. Parfois ça va être plutôt sur la question du lien à la technologie, aux technologies qui viendraient modifier le corps, etc., ou qui nous attacheraient justement plus particulièrement en tant que queer, gay, lesbienne, trans, etc. Et évidemment, les vies trans sont très souvent brandies dans des milieux alors technocritiques ou décroissants sur ces enjeux-là. Et je pense que là, il y a un vrai enjeu à penser, mais aussi depuis nos propres espaces, de dire bon, à quoi ressembleraient nos écologies queer, trans, etc. Et je pense que ça commence vraiment à se développer. C'est récent, mais là, depuis quelques années, on assiste quand même de plus en plus à des personnes, des collectifs qui commencent à prendre la parole sur ces enjeux-là. Au moment où j'écrivais Écologie déviante, dans les espaces francophones, à ma connaissance, il n'y avait pas beaucoup. Ça commençait à se faire aux États-Unis dans le champ de la recherche, etc. Depuis quelques années quand même, mais moi je trouve que là, et de toute façon on n'a pas le choix, il faut effectivement qu'on investisse rapidement ces espaces-là et qu'on essaye de penser à des perspectives écologistes, technocritiques, depuis nos propres vies, la question de nos vulnérabilités, parce que ce que refuse aussi de voir, selon moi, certaines perspectives écolo, technocritiques, etc., c'est de penser la question des dominations. Voilà, des dominations et des vulnérabilités. En ne mesurant pas aussi la manière dont chacun, chacune, on est produit par notre société, par nos modes de vie, et on est aussi attaché, dépendant parfois aussi de certaines technologies de soins, si on pense par exemple aux antirétroviraux, etc. Ouais. etc. Et je pense qu'il y a un endroit de l'écologie qui est en fait dans ce truc de décroissance et de critique des multinationales du médicament, des hormones, etc., des opérations, etc., en fait, à aucun moment pense la question de la vulnérabilité autrement que depuis un prisme extrêmement privilégié, extrêmement dominant. Et ça, c'est vraiment important que nous, on arrive pour faire exister ces perspectives-là, depuis, en fait, des perspectives queer, mais en fait, beaucoup plus larges, des perspectives minoritaires ou minorisées. Parce que, voilà. Bon, bref, après je peux m'étendre pendant des heures.
C'est super intéressant. Alors du coup, je vais revenir vers ton travail d'auteur. J'ai une question qui est un peu plus personnelle. Est-ce que écrire sur Edward Carpenter, Carl Whitman, Derek Jarman, est-ce que c'était une façon de te trouver, autrement dit, une sorte de mise en lumière de rôle modèle dont tu n'as pas eu accès quand tu as grandi?
Oui, je pense clairement. Je pense que, pareil, je me demande vraiment qu'est-ce que j'ai été chercher chez ces trois-là, quoi. Et qu'est-ce que je continue d'aller chercher, parce qu'en fait, Carpenter, je continue à travailler sur sa vie, ses écrits. Derek Jarman, maintenant, ça s'éloigne doucement, mais en fait, j'y reviens quand même globalement assez régulièrement, je le relis. Whitman, j'avais moins accès à ses textes, parce qu'il y a moins de choses qui ont été diffusées, mais c'est quand même quelqu'un qui a compté. Donc, je pense qu'effectivement, il y avait le fait d'avoir besoin de m'appuyer sur des trajectoires militantes aussi un peu plurielles. Je pense qu'il y avait besoin à la fois d'avoir accès à des histoires gays, à des histoires de conscientisation gay, de trajectoire gay, mais aussi de gays militants qui auraient cherché à questionner leur place au sein de la société, au sein du capitalisme ou de l'essor du capitalisme industriel pour Carpenter, au moment de l'épidémie, aussi au sein du deuil et de l'expérience du deuil et de la disparition. Et je pense que Jarman joue un rôle très important pour moi parce que je pense que je suis très naturellement, je ne vais pas dire naturellement, mais en tout cas un rapport à la mélancolie très fort et à la sensation de la perte, etc. Et je pense que Jarman, il est venu vraiment se greffer sur ce travail d'accompagnement du deuil, quoi, du deuil, de la perte, quand bien même nos expériences sont radicalement différentes, puisque je n'ai pas traversé le contexte épidémique du tout de la même manière. Mais donc c'est à la fois des figures de soins, de réconciliation aussi avec des émotions, des affects. C'est aussi, je pense qu'il y a quelque chose presque un peu d'érotique, hein, parfois. Des fois moi j'adore regarder les photos de Carpenter, je me dis qu'il était hyper beau. Non, mais il y a un truc de désir. Il y a un truc de désir aussi, de désirer à la fois des camarades qu'on n'a pas eu, peut-être de aussi de se dire ah bah si on s'était rencontré et c'est pas rien en fait, parce que je pense qu'il faut vraiment du désir pour travailler aussi les archives. Il faut être quand même un peu amoureux, ou en tout cas attaché à être désirant des sources, quoi. Donc je pense que oui, je me suis beaucoup cherché. Des fois, je me demande si en fait, ils ne deviennent pas interchangeables au final, et que je commence à créer en fait une sorte de militant idéal, gay idéal, qui serait en fait composé de tout le monde, qui serait composé de tous ceux que. Mais je crois que c'est pas très grave. Après, il faut faire voilà, historiquement, politiquement, c'est important de pas calquer les mêmes histoires, voilà, et de pas raconter exactement les mêmes trajectoires. Mais je pense qu'ils ont quand même beaucoup de choses.
Oui, tu les fais dialoguer finalement. Si on suit ton travail, il y a une sorte de dialogue.
Mais bon, à un moment aussi, je pense que ça va être. Là, je commence à ressentir le besoin de commencer à laisser leurs histoires, à transmettre, parce que j'avais très besoin de transmettre. Mais à laisser ça aussi un peu de côté maintenant. J'ai plus envie d'avancer, moi.
Jolie transition. Oui, d'ailleurs, tu préfaces Guébar, qui est entre l'enquête sociologique historique et c'est un peu du Gonzo finalement, parce qu'il se raconte beaucoup Jeremy Atherton Lean. Comment t'es arrivé à préfacer ce livre ?
Alors, ça a été au départ parce que j'étais en discussion avec une personne qui m'avait invité, que je remercie, qui se reconnaîtra, qui m'avait invité à participer aux relectures de la traduction pour Tusitala, la maison d'édition qui a traduit Guébar, aussi pour réfléchir un peu, parce que comme il y a énormément de lexique, il y a pas mal de toute une typologie de la culture gay aussi qui se rend visible dans le texte, donc à intervenir. Et puis progressivement la question éventuellement d'en signer la préface s'est posée, parce qu'il y avait une sorte d'écho aussi entre la démarche de Jeremy Atherton Lean, on va dire même le type d'écriture, un peu hybride comme ça, et ce que moi j'essaye de tisser à un autre endroit. Et puis par ailleurs, il parlait de Carpenter aussi, donc ça j'étais bien content de le découvrir. Et donc voilà, l'idée, et aussi voilà, il y a la question des récits et des archives qui est très forte aussi chez Atherton Lean. Il me semble qu'il y a vraiment quelque chose d'une sorte de géographie qui se tisse, qui est très belle. Et donc en fait, très vite, même moi, j'avais peu de temps au cours des derniers mois, mais en fait j'ai quand même très vite eu plaisir et le désir aussi de créer une sorte de petit écho en préface, mais parce que c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Moi je pense que c'est aussi un livre qui m'a beaucoup plu, on parlait du rapport au passé, mais je trouve qu'il a une pulsion de vie comme ça extrêmement séduisante et excitante, et à une certaine manière aussi de se laisser travailler par les traces du passé, d'aller les chercher, ouais. Et quelque chose, enfin, après je m'arrêterai là parce que sinon je vais faire que je trouve intéressant aussi chez certaines écritures et certaines auteuristes, c'est le fait de pas chercher la posture idéologique parfaite.
C'est exactement ce qu'il fait lui, notamment sur l'identité gay, queer, et je trouvais ça vraiment extrêmement et super intéressant.
Et je pense que c'est pas quelqu'un, on n'est pas toujours d'accord à certains moments, je pense sur certains trucs, mais je trouve quand même qu'il y a une forme d'accueil aussi, de plein de postures, une attention à pas stigmatiser, à pas rejeter sans cesse la honte sur un groupe plutôt qu'un autre. Et je trouve qu'en ce moment, on a aussi besoin de pouvoir comprendre toutes ces dynamiques-là sans être toujours dans les mécanismes de reproduction de la honte ou de disqualification de tel endroit ou tel endroit. Et je trouve que lui, il arrive avec son endroit de justesse qui est... Enfin, moi, ce que j'aime, c'est qu'il assume aussi ses travers, ce mécanisme excitant. Voilà, il est dans quelque chose d'assez...
Il y a beaucoup de désir.
Franc, quoi. Et il y a beaucoup de désir.
Il y a beaucoup de désir dans son... Dans
et
ce
du coup, bah, c'est pas propre tout le temps. Ouais, et en fait, c'est ça qui est bien.
On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Alors, on peut te lire. On n'a pas le temps, mais tu as un super texte dans la revue Trou Noir en poche. Très, très bon texte. Je sais pas si on peut en parler 2 minutes.
Ouais, faut pas me lancer là-dessus, mais on peut en parler 2 minutes. Ce texte sur le caca. Écoute, c'est quelque chose sur lequel je commence à travailler un peu plus en ce moment, sur la question de la saleté et de l'abjection. Et en tout cas, dans ce texte-là, je pense que j'avais. On parlait du mécanisme de honte, par exemple, m'interroge beaucoup aussi la question du corps sale, la question de la honte, de la saleté aussi dans les expériences gay, queer, etc. Et puis, moi, j'ai une sorte voilà, de fascination en ce moment qui s'est réaffirmée, mais que j'ai un peu toujours eue sur les questions de la gestion du sale et des excréments, de cette honte physiologique aussi qu'on a à cet endroit-là. Et donc, c'est ce que j'ai essayé d'articuler, articuler la question sexuelle à la question aussi de la gestion de notre corporéité, de tout ce qu'elle a, soit tout ce à quoi elle nous ramène. Et en fait, ça avait été quand même un tout petit peu inspiré d'un texte de Whitman. Ça retombe sur nos pattes, dans un journal qu'il a co-créé et dans lequel il a écrit, qui s'appelait RFD, et dans lequel il écrivait un article sur la merde qui s'appelait Shit, et où il essayait déjà, mais comme l'on fait beaucoup à propos des questions d'analité, en fait, dans les années 70, 80, 90, dans la théorie gay, d'articuler la question de la honte sexuelle avec la question d'être moins dégoûté par la merde qui le traverse et de revaloriser cette question de la merde en fait. Et alors lui, comme il était dans un processus aussi de vie à la campagne, etc., la question évidemment de comment on utilise les excréments sous une forme générative, quoi, c'est-à-dire en tant que fumier, etc., et c'était aussi un enjeu. Donc toutes ces puissances comme ça là de cette... ce que Freud appelait un reste de terre, de cette terrestrialité, voilà, dans une perspective écologiste, moi ça, je trouve qu'il y a quelque chose à aller chercher.
Et on soutient fortement la revue Trou Noir, c'est leur deuxième édition en poche, c'est vraiment très très bien. Merci beaucoup. Alors, avant de se quitter, on peut te suivre sur Instagram.
T'as un compte Instagram. Pour l'instant, si un jour j'arrive à en partir, je partirai.
Mais il faut qu'on réussisse à te suivre quand même. tes prochains projets, on va se quitter là-dessus.
Oui, alors du coup il y a plusieurs textes qui vont sortir dans différentes revues, mais le vrai gros travail, ce sera la biographie de Carpenter qui sortira, je l'espère, à l'automne prochain. Et puis dans les mois qui suivront, un texte de théorie critique avec un camarade et collègue autour des questions de l'anticapitalisme, ou en tout cas du capitalisme et de la dissidence sexuelle, avec ce camarade Gianfranco Rebuccini.
Ben merci infiniment. Je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Merci beaucoup.
Merci à toi.